La dernière fois, je vous avais parlé de ce que Dieu attend de nous et nous avions regardé cela au travers d'un texte du prophète Michée qui nous dit que Dieu attend de nous que nous pratiquions la justice, que nous aimions la miséricorde et que nous marchions dans l'humilité avec Dieu. En quelque sorte, il attend de nous que nous soyons des modèles et que nous soyons des imitateurs, nous nous efforcions d'imiter celui qui est notre modèle parfait, Jésus. Alors, évidemment, tout en étant conscient que sans lui et sans l'aide de son Saint-Esprit, c'est mission impossible. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une autre chose que Dieu attend de nous, c'est la reconnaissance et l'action de grâce. C'est pourquoi j'ai donné comme titre à mon message ce matin « Reconnaissance ou ingratitude ?» Et pour l'illustrer, je vous propose que nous lisions dans l'Évangile de Luc un texte bien connu de tous, au chapitre 17. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre !» Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » On pourrait dire beaucoup de choses sur ce texte qui nous parle bien sûr de guérison miraculeuse, mais qui nous parle aussi de foi. En effet, ces 10 hommes, ils ont eu la foi quand même parce que ils n'ont pas été guéris instantanément. Jésus leur a dit « Allez vous montrer au prêtre ». Parce que à l'époque, quand des gens étaient lépreux, pour être réintégré dans la société, il fallait que le prêtre constate qu'ils étaient vraiment guéris. Et donc, ces hommes, ils ont cru en la parole de Jésus. Ils sont tous partis, puisqu'il nous est dit que c'est quand ils étaient en chemin que Dieu les a guéris. Et à ce moment-là, l'un d'entre eux, ce fameux Samaritain, s'est rendu compte qu'il était guéri et aussitôt, il a fait demi-tour, il est retourné pour louer, tout en louant Dieu sur le chemin et pour exprimer sa reconnaissance à Jésus et pour l'adorer. Il n'est pas simplement venu le remercier puisqu'il est dit qu'il s'est jeté à ses pieds. Donc, en quelque sorte, il a reconnu en lui plus qu'un guérisseur. Il s'est jeté à ses pieds, il a reconnu en lui le Seigneur. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, il y a un enseignement précis en ce qui concerne les personnes atteintes de cette maladie terrible qui était la lèpre. Aujourd'hui, on soigne très bien la lèpre, mais à cette époque-là, aussi bien à l'époque où Moïse a écrit les textes de l'Ancien Testament qu'à l'époque de Jésus, la lèpre était une maladie qui n'avait aucun moyen de guérison, humainement parlant. Et la guérison, si elle avait lieu, elle ne pouvait être que miraculeuse, parce qu'il n'y avait aucun soin possible pour ces gens. Peut-être qu'il y avait des soins pour soulager leur douleur, leur souffrance, mais il n'y avait pas de soins pour empêcher l'évolution de cette maladie, et elle conduisait à une fin terrible, avec une perte des membres. Enfin, c'était quelque chose d'assez terrible. Et c'est encore assez terrible aujourd'hui dans certains endroits où les gens sont mal soignés et qui ont encore cette maladie. Mais je veux m'arrêter particulièrement sur le comportement du lépreux qui est revenu vers Jésus, parce que lui, non seulement il a cru comme les autres, mais lorsqu'il a constaté qu'il était guéri, il est revenu pour remercier Jésus. Et j'ai souvent lu ce texte, mais c'est la première fois vraiment que je réalise une chose de cette façon-là. Peut-être que vous avez déjà vu cela, mais j'ai réalisé que s'il revenait vers Jésus, en fait, c'était la bonne démarche, parce qu'il n'avait plus besoin d'aller se présenter devant les prêtres. Parce que Jésus, il a toutes les fonctions. Il est à la fois le roi, le grand prêtre, l'agneau du sacrifice, il est tout. Et en venant à Jésus, cet homme, il venait se présenter au grand prêtre, en fait, à celui qui est le véritable grand prêtre. Je veux vous lire simplement quelques extraits dans l'épître aux Hébreux. Dans les premiers chapitres, l'auteur s'étend longuement sur cet aspect de Jésus qui est le grand prêtre, à la fois le grand prêtre et l'agneau du sacrifice. Je vous lirai juste quelques extraits parce que il y a à peu près une dizaine de chapitres qui s'étend sur ce sujet-là. Je vous lirai déjà au chapitre 4. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ça, c'est au chapitre 4, versets 14 à 16. Il y a tout un développement dans les chapitres qui suivent sur ce souverain sacrificateur qui n'est pas un souverain sacrificateur selon l'ordre mosaïque, selon l'ordre d'Aaron et ses descendants. Vous savez que le grand prêtre, c'est forcément un descendant d'Aaron et de ses fils. Jésus n'est pas du tout un descendant de la tribu de Lévi, il est un descendant de la tribu de Juda, et il est présenté comme étant un prêtre selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre de Aaron. Et ce grand prêtre, en fait, ce Melchisédek, en fait, il est une préfiguration de Jésus dans l'Ancien Testament. Alors, je vais encore lire un texte, je saute directement au chapitre 9, parce qu'il y a tout un développement sur ce prêtre dans les chapitres, entre le chapitre 4 et le chapitre 9. Et je lirai directement au chapitre 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est un peu comme si cet homme, ce lépreux, quand il est venu se jeter aux pieds de Jésus, c'est un peu comme si cet homme avait reconnu en Jésus ce grand prêtre. En venant vers ce prêtre-là, plus besoin d'offrir de sacrifices pour la purification. Parce que quand je pense aux neuf autres, ils sont sans doute allés pour se présenter au prêtre. Mais alors, s'ils se sont présentés au prêtre, il a fallu qu'ils suivent ce que dit la loi, parce que le prêtre, il leur a ordonné tout ce qu'ils devaient faire. Et je vous garantis que c'est pas triste, hein, quand on lit dans le Lévitique tout ce que doit faire un lépreux quand il est purifié, qu'il doit se présenter au prêtre. Alors je vais pas vous lire tout le déroulement de ces choses. Je vais vous lire simplement quelques extraits. Dans le Lévitique, on va lire au chapitre 14. Je vais lire simplement les versets 2 à 6, mais en réalité, il faut lire jusqu'au verset 32 pour avoir la totalité de ce qu'il faut faire. Je vous épargne cette lecture. Voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs, l'oiseau vivant. Ok, ça c'est une chose, mais c'est pas tout. Parce que si on lit la suite, après cet homme, il doit se déshabiller, il doit laver tous ses vêtements et il doit raser tous ses poils. Il doit se raser entièrement et tous les poils du corps. Et puis après, au bout d'un certain temps, il doit revenir voir le sacrificateur qui doit encore l'examiner et vérifier qu'il est vraiment pur, et puis à ce moment-là, il doit y avoir le sacrifice d'expiation. Il doit encore offrir un sacrifice. Vous voyez, il y a tout un rituel qui est pas simple. Tout ça pour préfigurer le sacrifice parfait de Jésus. Mais en revenant à Jésus, ce lépreux, il n'avait plus besoin de tous ces rituels parce que Jésus, il remplit toutes les fonctions. Bien sûr, il n'avait pas encore accompli son sacrifice, mais il allait l'accomplir. Et il avait guéri cet homme et il lui faisait grâce, puisque à la fin du discours, ce qu'on a lu, il a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Il était sauvé, il était guéri. Il n'avait plus besoin de faire quoi que ce soit, cet homme-là. Mais les autres, bien sûr, s'ils étaient revenus à Jésus, ils auraient été dans la même condition. Mais ils ne sont pas revenus à Jésus. La lèpre, c'est l'image du péché. Et nous sommes tous contaminés par le péché. Nous avons tous besoin d'être purifiés. Mais en venant à Jésus, on est pleinement libérés. Et on n'a plus besoin de pratiquer tous ces rites prescrits dans l'Ancien Testament. Non seulement nous avons été purifiés, mais nous avons été justifiés. Dieu nous voit parfaits, comme si nous n'avions jamais péché. C'est extraordinaire. Dans l'ancienne alliance, en ce qui concerne la lèpre, il y avait un premier sacrifice de purification avec ces deux oiseaux-là, et puis il y avait le sacrifice de culpabilité. Alors, dans notre récit, nous voyons que Jésus réagit et pose la question « Où sont les 9 autres ? Les 10 n'ont-ils pas été guéris ?» En fait, il aurait aimé Jésus être reconnu par tous comme ce grand sacrificateur, comme celui qui avait tout accompli pour eux, comme celui qui était le Messie. Et puis, bien sûr, il aurait bien aimé que ces lépreux expriment au moins une certaine reconnaissance pour la guérison qu'ils avaient reçue. Alors, bien sûr que la guérison, elle reste une grâce, ce n'est pas un dû. Le donateur peut quand même s'attendre à ce que celui qui a reçu le don lui exprime sa reconnaissance, c'est bien la moindre des choses. Et nous, quelle attitude avons-nous ? Est-ce que nous savons toujours exprimer notre reconnaissance à Dieu ? Nous pouvons parfois passer par des épreuves. On passe tous par des épreuves quelque part, un jour ou l'autre. Et alors, quand on passe par des épreuves, on a tendance un peu à oublier l'essentiel, la reconnaissance, l'adoration, et on se focalise sur ce qui ne va pas. Mais l'apôtre Paul, je suis frappé par son attitude. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il nous dit la chose suivante, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » L'apôtre Paul parle de légères afflictions. Alors, si l'apôtre Paul parle de légères afflictions, moi, je pense que les choses par lesquelles je passe, c'est vraiment insignifiant. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà réalisé tout ce par quoi Paul est passé. Mais au cours de son ministère, il donne une description dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Je vais vous lire cela. Il fait un petit peu un résumé de la situation. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alors quand on est responsable d'une communauté, on a un poids sur les épaules qui n'est pas négligeable, il y a des soucis. Je vous ferai pas... Vous pouvez imaginer qu'il y a des soucis parce que on porte quand même le poids de tout ce qui se passe dans l'Église. Mais Paul, lui, il avait je ne sais combien de communautés qu'il avait fondées ou dont il se sentait quand même responsable. Et c'est vrai qu'il était sollicité par toutes ces églises et il avait quand même un poids sur les épaules qui était énorme. Et malgré cela, Paul, il parle de légères afflictions parce qu'il n'avait pas les yeux fixés sur toutes ces choses difficiles, mais il avait cette communion avec son Dieu extraordinaire. à tel point qu'on peut lire dans le chapitre 16 des Actes cette histoire de la prison de Philippe, où il était avec Silas dans la prison, et où, malgré tout ce qu'ils avaient subi, ils avaient été battus par les Romains. Et je ne vous explique pas, les Romains, ce n'était pas 40 coups moins 1, il n'y avait pas de limite. Et ils devaient être en sang, ils devaient avoir le dos lacéré, ils étaient pris dans des ceps de bois aux pieds, des chaînes. Ils étaient dans une situation terrible. Et malgré cela, ils chantaient les louanges de Dieu. Ils pouvaient se réjouir dans une telle situation. Mais c'est fou. Moi, je ne comprends pas une chose comme ça. Ça ne peut être que surnaturel. C'est tellement il était en communion avec son Dieu que toutes ces choses, pour lui, ça passait au-dessus de lui, et il était rempli du Saint-Esprit et de la joie que procure le Saint-Esprit, même dans des situations extrêmes. Et Paul, en effet, comme il le dit, je pense que nous pouvons traverser des épreuves qui peuvent être qualifiées de légères afflictions, déjà en comparaison de ce que Paul a subi. Mais Paul dit également dans la lettre aux Romains, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Si on pense déjà à ce que Jésus a accompli pour nous, et si on pense aussi à notre avenir qui est le meilleur est devant nous, si je puis m'exprimer ainsi, c'est sûr, si nous avons vraiment fait alliance avec Dieu, si nous avons la paix avec Dieu, si nous avons cru au sacrifice de Jésus, alors Dieu nous remplit de son Saint-Esprit et il nous donne cette assurance, cette certitude que nous avons cette éternité dans la gloire. Et rien que cette perspective-là, ça devrait nous remplir de joie. Mais nous ne savons pas toujours voir les bonnes choses. Nous sommes focalisés sur les désagréments, les choses qui nous déplaisent. Quand je préparais ce message, j'ai lu une anecdote que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'une grand-mère qui se promène avec son petit-fils, qui est un tout petit bambin, tout jeune, sur la plage. Elle se promène au bord de la plage, au bord de la mer, comme ça. Puis il y a des vagues. Et puis tout à coup, il y a une énorme vague qui vient et qui emporte le petit gamin qui avait lâché la main de sa grand-mère. Et ce petit gamin, il est emporté par la mer. Et la grand-mère, désespérée, elle ne sait pas quoi faire. Elle peut pas aller rechercher cet enfant. Elle est désespérée, alors elle se jette à genoux et elle supplie Dieu, « Oh Seigneur, je t'en supplie, ramène-moi mon petit-fils, s'il te plaît. » Et au miracle, une vague déferlante ramène l'enfant sur la rive. Il atterrit au pied de la grand-mère, sain et sauf. Il est juste un petit peu étourdi, un petit peu, mais rien de grave, il est sain et sauf. La grand-mère ramasse son petit-fils et « Ah oh, il n'a rien. Oh, formidable, il n'a rien. » Et puis tout à coup, elle se ravise. Et puis elle jette un regard furibond au ciel. Elle dit, « Mais quand même, quand on est arrivé sur la plage, il avait un chapeau, où est passé le chapeau ?» S'apprête à sourire. Mais quelque part, est-ce qu'on n'a pas des fois un peu la même réaction vis-à-vis de Dieu ? On oublie les choses essentielles et on se focalise sur des bricoles, des choses insignifiantes peut-être. David, dans de nombreux psaumes, exprime sa reconnaissance à Dieu. Je voudrais aussi rappeler une chose, c'est l'attitude de Job. Vous vous souvenez, Job, par tout ce quoi il a passé, et je pense que dans une telle situation, il aurait eu le droit de se plaindre, et il ne s'est pas plaint. Et lorsque sa femme lui a dit « Mais écoute, tu vois dans quel état tu es, ben, maudit Dieu et meurt hein, », c'est dans le livre de Job. Et Job lui répond « Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Et il nous a dit « Dans tout cela, Job ne pécha pas. » Il a accepté ce qui lui arrivait et il ne s'est pas focalisé sur les choses difficiles. Et David, dans de nombreux psaumes, exprime sa reconnaissance à Dieu et sa louange. Et dans le psaume 34, au début, au verset 2, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il ne dit pas « Je louerai le Seigneur quand tout va bien. » Non, en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors, vous me direz, c'est facile à dire. Hein. Alors, je vous rassure, toutes ces choses-là, je ne voudrais pas me poser en donneur de leçons parce que ce message, je me l'adresse à moi-même aussi. Parce que combien de fois aussi je ne suis pas dans la reconnaissance, dans la louange, mais aussi focalisé sur les petites misères, sur les petits désagréments, et j'oublie l'essentiel. Alors pardon Seigneur, ces paroles que je vous adresse, je me les adresse à moi-même en premier. En général, quand on donne un message, c'est qu'on a déjà été interpellé soi-même. Voilà, je tenais à vous dire ces choses pour pas que vous pensiez que j'ai tout compris et que je vous donne une leçon de morale, non, pas du tout, parce que je me suis interpellé par la parole de Dieu aussi. Et puis, David dit aussi dans un autre psaume, dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Ce n'est pas une déclaration, c'est une exhortation. Hein. Il y a un point d'exclamation. Il s'adresse à son âme, « Mon âme bénit l'Éternel ». Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que lui aussi, je pense, quand il passait par des difficultés, il avait tendance à se décourager, il avait besoin d'exhorter son âme et de lui dire, oui, regarde l'essentiel, regarde tout ce que Dieu a fait pour toi et loue-le, bénis-le, rends-lui gloire, rends-lui grâce. Paul nous exhorte à rendre grâce en toutes choses, déjà dans sa lettre aux Éphésiens, où parmi toutes les recommandations qu'il leur donne, il y a celle-ci. Alors, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père. » Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et puis, dans l'Épître aux Romains, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Alors évidemment, si nous pouvons rendre grâce à Dieu, c'est justement parce que il nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Alors, parfois, nous pouvons passer par des moments difficiles. Comment peut-on rendre grâce à Dieu en toute chose, même quand on passe par des moments difficiles? Eh bien, justement parce que Il nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Et nous, nous voyons pas les choses comme Dieu les voit. Nous avons une vue limitée, mais lui, il a une vue globale, il voit toutes choses. Et s'il nous dit de lui rendre grâce pour tout, c'est parce qu'il sait que si nous passons par certaines situations, c'est parce que Dieu veut nous faire grandir, veut nous faire aller plus loin, et on peut lui rendre grâce, même quand on passe par des moments difficiles, parce qu'on sait que s'il le fait, c'est pour quelque chose de meilleur encore pour nous. Facile à dire, plus difficile à vivre. Je suis d'accord avec vous. Il répète aussi la même chose dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Alors déjà, dans les Thessaloniciens, il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ça va dans le même sens que ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, vous allez me dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis tout à fait d'accord, parce que cette exhortation, je me l'adresse à moi-même, elle me paraît tellement hors de portée. Mais Paul pouvait se permettre de dire ces choses parce qu'il les vivait. On le voit louant Dieu dans la situation épouvantable de la prison de Philippe, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Les fouets romains, ce n'étaient pas des simples martinets. Comment pouvait-il rester joyeux dans cette situation? C'est parce qu'il vivait pleinement cette intimité avec Dieu, cette communion constante, qui lui permettait de traverser victorieusement les épreuves les plus difficiles. Et la clé, elle est là. Lorsqu'on entretient cette intimité, cette communion avec le Seigneur, il nous permet de traverser les pires situations sereinement. Je vais maintenant conclure simplement avec un texte de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu vaut mieux que de longs discours. Je vous lirai dans la lettre aux Colossiens, à partir du chapitre 3, à partir du verset 12. « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants, soyez reconnaissants. » J'ai souligné cela. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Voilà, il y a toujours reconnaissance, remerciement. Voilà, c'est la clé que je voudrais vous laisser en conclusion. Soyons reconnaissants et non ingrats. Et retenons ce mot d'ordre de 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18 que je vous ai lu tout à l'heure. Soyez toujours joyeux, dur. Priez sans cesse, difficile aussi. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas une option, c'est la volonté de Dieu. Alors, prenons cette décision. C'est difficile, on n'y arrive pas toujours, mais il faut décider. décider d'être joyeux, décider d'être reconnaissant et prendre cette décision devant Dieu. Seigneur, c'est vrai, Seigneur. Oui, je suis souvent focalisé sur ce qui ne va pas. Pardon, Seigneur, parce que je devrais tellement me jeter à tes pieds comme ce lépreux et te dire ma reconnaissance parce que j'étais perdu. Il n'y avait aucune possibilité de salut pour moi. Je n'aurais pas pu m'en sortir par mes forces. Mais tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Et moi, je n'ai plus qu'à me présenter devant toi et à te dire merci Seigneur. Je crois que tu as tout accompli. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu m'as acquis la vie à un grand prix, Seigneur. Tu as payé un grand prix. Tout est payé. La dette est acquittée. Oh, merci, Seigneur. Et j'ai cette perspective extraordinaire de la vie éternelle dans ta présence. Oh, quelle grâce, Seigneur. Sois béni. Louange et gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen.